Alors, c'est bon d'être en famille, c'est bon d'avoir tous ces enfants avec nous. C'est une joie, hein. Et on espère que, et on souhaite et on prie pour eux qu'ils construisent leur vie aussi sur le roc solide de Jésus-Christ. Alors, Paul nous a bien introduit au sujet d'aujourd'hui. On reste dans notre série sur la souveraineté de Dieu. Ce qu'on a déjà dit donc ces dernières semaines, c'est que même si Dieu est souverain, il n'exprime pas, il n'agit pas dans sa souveraineté juste en claquant des doigts pour que les choses arrivent comme il le veut. C'est un petit peu plus élaboré que ça, si on peut dire. Il utilise des moyens, donc il décide des choses, il a une volonté, ça va s'accomplir, il n'y a aucun doute. Et pour mettre en œuvre sa volonté, il utilise des moyens. Et face à ces moyens, nous sommes aussi responsables. Nous pouvons nous saisir de ces moyens-là, en particulier pour nous-mêmes progresser dans notre vie chrétienne. Mais vous savez très bien comme moi que marcher dans la vie chrétienne, progresser même dans la vie chrétienne, c'est pas facile. En particulier quand il y a des épreuves et des temps difficiles. Alors on va lire ce matin un petit passage dans la lettre aux Hébreux. On connaît pas exactement l'auteur, il y a plusieurs théories, mais peu importe, on va laisser ça de côté. C'est dans la Bible, c'est de Dieu, inspiré par Dieu pour notre édification à nous. Et le problème de ces Hébreux, c'est que donc d'origine juive, d'arrière-plan religieux juif, si vous voulez, ils ont rencontré le Seigneur. Maintenant, ils ont fait une rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ils ont commencé à cheminer avec Christ en mettant leur foi et leur confiance en Jésus-Christ, en construisant leur vie sur la croix. Mais il y a la persécution, mais il y a les épreuves qui viennent, mais il y a tout un tas d'oppositions qui vient sur leur chemin de la part de non-croyants hostiles à leur foi. Et du coup, ils sont un peu en danger, ces chrétiens hébreux. Et du coup, l'auteur leur écrit pour justement les encourager. Le danger, c'est qu'ils voudraient peut-être commencer à faire des compromis dans leur foi. Ok, on peut avoir Christ, ça c'est une bonne chose, mais si on met trop ça en avant, ça nous attire des ennuis. Peut-être qu'on devrait un petit peu se calmer sur ça, et puis revenir à nos anciennes pratiques, revenir juste à notre religion d'avant, nos pratiques, nos rites d'avant. Et ça nous éviterait tout un tas d'ennuis. Ils étaient en lutte, ces Hébreux, ils étaient tiraillés entre leur foi en Christ et l'envie de revenir donc à leur religion passée. Et je crois que nous, on n'est pas trop différents en fait des Hébreux. On va voir ce matin en quoi on est aussi concernés. N'est-ce pas le cas que nous aussi, si on veut marcher avec Christ, il y a tout un tas de questions qui nous viennent qu'on ne se posait pas avant ou qu'on ne se poserait pas autrement. N'est-ce pas le cas que, à cause de notre foi, on a une opposition qui se manifeste souvent, régulièrement, par rapport à nous. Dans le cas des Hébreux, ils étaient publiquement maltraités de la part des non-chrétiens. Certains étaient mis en prison, ils avaient été volés de tous leurs biens à cause de leur foi. Et l'auteur donc de la lettre veut les encourager. Et ma prière, ce qu'on va prier maintenant, c'est que Dieu nous encourage aussi. On va lire d'abord dans Hébreux au chapitre 12, et on va commencer à partir du verset 1, même si l'essentiel de la prédication, il va porter sur le verset 3 jusqu'à 11. Donc Hébreux chapitre 12, verset 1, juste pour qu'on ait un petit peu du contexte. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez, en effet, à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qui ont, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. On va regarder ce matin la souveraineté de Dieu et les bienfaits de sa discipline. Je vous invite courtement à prier encore. Merci Seigneur, parce que tu es bon. On l'a rappelé ce matin, tu es un refuge, on peut venir à toi, être en sécurité avec toi. Et merci parce que pour notre bien, parfois un des moyens que tu utilises, comme l'ont fait nos pères terrestres, c'est de nous discipliner. Merci parce que tu le fais avec amour, avec patience. Merci parce que tu le fais dans notre véritable intérêt. Je te prie que ce matin, quand on lit ce passage, tu ouvres nos cœurs, tu nous aides à mettre notre confiance dans cette vérité-là, à la croire, à croire que toi tu restes bon, même dans les épreuves et les difficultés. Et Seigneur, que chacun reparte ce matin encouragé et non pas abattu, revigoré et non pas lassé. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Vous avez au verso des feuillets le plan un peu que je voudrais aborder en trois points. Mais le premier, c'est que c'est un vrai danger, n'est-ce pas? Un vrai risque de se laisser décourager dans la vie chrétienne. Ce risque, il n'est pas minime, c'est un grand danger, c'est un grand risque. C'est un danger spirituel qui nous guette, tout comme il avait menacé la foi des premiers destinataires de la lettre. Ce danger, c'est le découragement, c'est l'abattement. Et particulièrement face à la réalité de la souffrance. Et surtout quand elle dure. Ou qu'elle est particulièrement forte. Parfois, on se sent écrasé, n'est-ce pas? On est exposé à des situations tellement difficiles au point où on se demande même si on va en ressortir. Et on sent cette pression-là énorme sur nos épaules. Je me trompe? Vous voyez de quoi je veux parler? Parfois, c'est pas que c'est franchement dur. Mais c'est tellement long que ça devient dur, parce que ça traîne, c'est pénible. Et on dirait qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et en fait, on en vient à croire même qu'en fait, il terminera jamais, qu'il n'y a pas de sortie. Ça aussi, ça vous parle? Vous avez déjà été dans des telles situations? Perdre courage, c'est un vrai danger spirituel. Parce que pour avancer avec Dieu, nous en avons besoin pour chaque jour, semaine après semaine, mois après semaine, pour les années qui nous restent. Continuer d'aller de l'avant, de faire confiance à Dieu, de vivre en accord avec notre identité et transformer de fils et de filles de Dieu. On a besoin du courage. Alors regardez avec moi dans le passage à quoi ressemblent les souffrances auxquelles sont exposés les chrétiens dans cette lettre. On voit qu'ils sont opposés. Verset 3, il y a une opposition contre eux. Une opposition de la même nature que celle qu'a vécu Jésus. Et c'est pas étonnant, nous sommes ses disciples. Il y a une identification dans nos vies à Christ. Nous sommes unis à lui si nous sommes chrétiens. Et donc nous avons part à tout ce qui a fait la vie de Christ. Vous voyez ça? Alors, c'est là que l'auteur, il commence son discours, il nous attire le regard d'abord sur Christ qui lui-même a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Et en nous attirant le regard sur Christ, l'encouragement qu'il nous donne, c'est de ne pas nous laisser abattre alors, quand on considère ça, ne pas nous laisser abattre par le découragement. Et dans le fait de regarder à Christ, on découvre une vérité. D'abord, il s'agit d'une lutte jusqu'à la mort. Vous voyez ça aussi, toujours au verset 3. En termes de délai, ça ne s'arrêtera pas avant. Et en termes d'intensité, ça veut dire que la lutte est féroce, ça veut dire que le combat fait rage, que ce n'est pas une petite affaire, que même certains vont donner leur vie dans cette lutte. Et la question, du coup, pour nous, quand on lit ce verset, c'est de se demander, est-ce que je vis bien ma vie en étant conscient qu'elle se déroule dans une zone de conflit? Que malgré les apparences extérieures, En fait, spirituellement, la bataille fait rage. Et on peut être tranquille en Provence, dans sa maison, mais en fait, intérieurement, dans nos cœurs. C'est pas si simple que ça. Ça, c'est une vérité. Et il vaut mieux être réaliste. Et j'aime mieux quand quelqu'un me parle et me dit, voilà, la réalité, c'est ça. Plutôt que quelqu'un qui essaye d'arrondir, de camoufler les choses. Il y a une vérité, mais il y a aussi un encouragement. On peut, et on doit, en tout cas on est exhorté à le faire par la parole de Dieu ici, on doit chercher l'encouragement, on doit regarder à Jésus. Unis à lui, nous allons aussi recevoir de lui la force de persévérer, d'endurer, de traverser les épreuves, de lutter avec courage. Le danger spirituel de nous lasser sera combattu dans nos cœurs chaque fois que nous regardons à Jésus, suprêmement humilié sur la croix à cause de nos péchés, mais aussi suprêmement élevé à la place, à la droite de Dieu comme fils. Alors, la première exhortation de l'auteur, ici de la lettre, c'est de nous dire, voilà, il y a une opposition de la même nature que celle qu'a vécu Jésus, mais soyons pas étonnés. En fait, ça veut dire que nous sommes unis à Christ. Et ça, c'est un bon témoignage, ça nous encourage. Si c'est à cause de mon union à Christ que je dois subir une telle opposition, je suis sur la bonne route. Parce que Jésus lui-même me garde et va m'encourager. La deuxième exhortation qu'il donne, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » En d'autres termes, et c'est un petit peu dur à avaler, je dois avouer, il est en train de nous dire « Mais les choses ne sont pas aussi graves qu'elles pourraient l'être. » C'est toujours un peu délicat quand quelqu'un extérieur à votre situation vient vous dire ça, n'est-ce pas ? Ici, c'est Dieu qui, quand même, toujours dans cet même esprit de réalisme, nous dit, mais regardez, les choses ne sont pas aussi graves qu'elles pourraient l'être. Pour les Hébreux, même les premiers destinataires, à qui l'auteur est en train d'écrire maintenant, il dit, mais rappelez-vous, certains ont été emprisonnés à cause de leur foi. D'autres ont été volés, on a pris vos biens, vous avez été humiliés, vous avez été calomniés, des rumeurs ont été lancées contre vous, vous avez reçu des coups. Mais il n'y a pas eu de martyrs. Il n'y a pas eu de martyrs, il n'y a pas eu encore des morts parmi vous, dans votre communauté. Et si vous regardez juste quelques versets avant, au chapitre 11, à partir du verset 35, l'auteur a parlé des croyants des époques passées, en particulier de l'Ancien Testament. Par la foi, ils étaient eux aussi unis à Christ dans un sens. Ils avaient une foi semblable à la nôtre. Ils n'avaient pas vu Christ, ils n'avaient pas entendu parler de Christ, mais par la foi, l'évangile leur avait été présenté. Ils connaissaient d'une certaine manière cet évangile et le Messie qui devait venir. Et quelques versets plus haut, alors l'auteur dit, au chapitre 11, versets 35 à 37, « Ces gens-là, parmi eux, ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts, tués par l'épée. » Je ne suis pas du tout en train de nier la souffrance que nous pouvons ressentir aujourd'hui. L'auteur de la lettre n'est pas en train de nier la souffrance que les premiers destinataires à qui il écrit sont en train de traverser. Mais il les fait réfléchir et penser aux chrétiens qui sont dans des situations encore plus difficiles qu'eux. Et pour nous, pensons aux chrétiens persécutés aujourd'hui. Ceux qui sont en Syrie ou en Irak à l'heure actuelle, ce matin. C'est pas simple de venir se rassembler avec d'autres chrétiens dans ces régions-là aujourd'hui. Pensez à ceux qui sont en Érythrée, enfermés dans des conteneurs métalliques, en plein soleil, jour après jour, certains pour plusieurs années maintenant. Pensez à ceux qui sont en Corée du Nord, pensez à ceux qui sont en Somalie, qui ont donné leur vie, qui ont été exécutés à cause de leur foi. Nous avons des épreuves ici, mais il n'y a pas de martyrs en ce moment à Cavaillon, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de martyrs en ce moment dans la région, même si ça pourrait venir. Alors, voilà en tout cas l'exhortation de l'auteur. Pensez-y et ne vous découragez pas, ne vous laissez pas abattre par le découragement. Et comme il est bien réaliste et qu'il ne veut pas nier la souffrance, encore au verset 11, il nous parle de ses épreuves et il dit, bien sûr, les épreuves sont une cause de tristesse. Et vous le savez aussi bien que moi, l'expérience chrétienne que nous avons aujourd'hui, elle est marquée par la tristesse encore. Mais regardez avec moi verset 11. Certes, au premier abord, toute correction, toute épreuve, correction, toute épreuve, discipline, si on peut dire comme ça, semble un sujet de tristesse et non de joie. Et c'est ce petit mot « semble » qui nous indique qu'il y a un espoir, qu'il y a une autre réalité conjointe, pas visible immédiatement, qui accompagne les épreuves. Ça semble, dans un premier temps, être un sujet de tristesse. Et on ne nie pas qu'on ressent même cette tristesse, qu'on l'expérimente, qu'elle n'est pas facile à porter, à gérer. Mais la réalité, c'est que ce qui semble une tristesse dans un premier temps, au final, c'est un sujet de joie. Et cette joie-là, elle va durer encore plus longtemps que ce qu'on imagine. Voilà les épreuves auxquelles les destinataires étaient confrontés. Elles nous ressemblent aux situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors on doit se poser la question, mais d'où ça vient? Pourquoi? D'où viennent les épreuves? Eh bien on le voit, encore au verset 3 et 4, c'est le péché. C'est des adversaires pécheurs hostiles qui créent ces difficultés, qui créent ces épreuves. Dans Hébreux chapitre 10, donc juste deux chapitres plus loin, plus avant plutôt, au verset 32 à 36, l'auteur rappelle à ses destinataires, « Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. » N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Vous voyez, les chrétiens ont souffert. L'auteur lui-même, il n'est pas en train de parler comme s'il n'avait jamais rien vécu de tout ça. Il a été lui-même en prison. Et Jésus a souffert sous la main de pécheurs hostiles. De même, il y aura une opposition et de la persécution pour les chrétiens par des pécheurs, par des adversaires qui s'opposent à Christ et donc à ses disciples. Il y aura de l'opposition qui vient du diable, qui vient de Satan, de l'adversaire. N'oublions pas, ne perdons pas de vue cette réalité du monde spirituel mauvais qui est aussi en train d'agir contre notre foi, qui veut détruire notre foi, qui veut détruire notre confiance en Christ. Elle ne pourra pas renverser ce que Christ a fait à la croix, mais elle peut nous déconnecter de ce que Christ a fait à la croix. Et ça, c'est toute l'œuvre du diable dans nos cœurs, n'est-ce pas? Alors on peut dire, ouais, bah c'est tous ces gens-là autour de nous, pécheurs, mauvais, qui veulent s'opposer, qui veulent restreindre notre liberté en tant que chrétiens, qui se moquent de nous, qui nous font des mauvais coups. Mais ce n'est pas la réponse la plus complète, ni la raison la plus importante. Et c'est surprenant. Ça peut être déstabilisant dans un premier temps. Parce qu'en réalité, qui est au contrôle de tout ça? Mais c'est Dieu. C'est la discipline d'un Père céleste parfait qui nous aime, qui est en train de se manifester au travers de ces épreuves et de ces difficultés. Vous avez vu ça, versets 4 et 5? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et bien sûr, comme ses filles aussi. Si nous baissons les bras, c'est parce que nous oublions l'exhortation de la sagesse. Ici, il y a une citation du livre des Proverbes, une exhortation qui nous est adressée comme à des fils et des filles, et non comme à des gens sans importance, comme à des enfants illégitimes, comme à des gens dont on aurait honte. Dieu envoie, utilise ces épreuves, ces difficultés dans nos vies. Même la prison, même les calomnies, même le martyr, comme des choses pour discipliner son Église. Alors on doit se poser la question, mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que c'est, premièrement, ça fait un peu flipper, hein. La discipline de Dieu, ce n'est pas par rancune. C'est pas parce qu'il a été tellement fâché de nos péchés passés, c'est pas parce qu'il est tellement en colère de tout ce que, le mal qu'on a fait avant de le connaître, que maintenant il va falloir payer de toute façon. Ce n'est pas une manière pour Dieu de nous faire expier nous-mêmes nos fautes. C'est pas pour payer nos mauvaises années. L'épreuve, discipline envoyée par Dieu n'est pas une punition. Cela vient d'un père qui corrige pour le bien de ses enfants, pour des gens qu'il reconnaît comme ses fils, ses filles, comme des membres de sa propre famille. La discipline de Dieu non plus n'est pas une réaction au mal dans le monde. Parfois, on a cette vision-là. Il y a des choses mauvaises qui arrivent et on dit bah, Dieu est souverain et il est capable de changer le mal en bien. Mais comme si c'était après coup. Comme si, voilà, il nous est arrivé quelque chose. Oh, c'est dur. Mais j'espère le moment où Dieu va se réveiller et enfin il va renverser la situation pour qu'il y ait quelque chose de bon qui ressorte de tout ça. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu prévoit, Dieu utilise, Dieu planifie toutes ces choses qui nous arrivent difficiles dans notre vie pour notre bien. J'ai lu cette illustration, j'ai trouvé utile et je vous la livre ce matin. C'est la différence entre un médecin urgentiste et le chirurgien qui planifie une opération. Dieu n'est pas en train de réparer des dégâts causés par un accident, comme le médecin urgentiste. On l'appelle, il arrive de toute urgence, et quand il arrive, les dégâts sont faits, il a rien prévu, il doit juste gérer dans l'urgence, justement, comment maintenir la personne en vie, comment refermer les plaies, comment réparer les organes, comment sauver la vie de cette personne. Mais c'est différent que quand vous avez commencé à avoir mal quelque part, et puis vous allez chez votre médecin, et puis il pose un diagnostic, et il dit, en fait, je suis désolé, mais il va falloir passer par une opération. Donc, voilà, dans un mois, vous avez rendez-vous au CHU et on va procéder à telle ou telle opération. D'accord ? C'est-à-dire, c'est planifié. Le médecin voit le mal, il voit qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ce mal. Et passer sur une table d'opération, c'est pas la plus belle des expériences que vous ayez jamais vécues dans votre vie, je crois. C'est pas un sujet de joie de premier abord. Mais quand vous êtes dans les mains d'un chirurgien qui sait ce qu'il fait, qui planifie pour votre intérêt, pour votre meilleure santé, pour votre vie, alors ça réconforte. Et il y a du courage à prendre dans une telle situation. Le chirurgien spécialiste diagnostique et opère avant que ça devienne grave. Et de la même manière, Dieu donc règne au-dessus des pécheurs hostiles et du diable. Et bien qu'il n'en soit pas conscient, et tout en étant responsable et coupable, ces personnes, ces êtres, accomplissent des plans sages et pleins d'amour de Dieu pour nous discipliner. Parce que le but de la discipline, c'est l'amour. J'espère que vous avez remarqué ça dans le texte. Juste, je vais vous relire quelques versets. Vous voyez à combien de reprises le mot « fils » revient, verset 5. L'encouragement vous est adressé comme à des fils ou à des filles. « Mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction du Seigneur. » Verset 6, le Seigneur corrige qui ? Celui ou celle qu'il aime. Verset 7, « Supportez la correction, c'est comme des fils ou des filles que Dieu vous traite. » Regardez encore au verset, la fin du verset 9. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est pour avoir la vie. Verset 10, c'est pour notre bien. Verset 10 encore, c'est pour qu'on ait part à sa sainteté. Verset 11, c'est pour la paix et la justice. Le but de la discipline de Dieu, c'est l'amour. En fait, une des raisons principales de la discipline, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits. Si nous étions parfaits, Dieu n'aurait pas besoin de nous corriger. Mais le fait est que nous ne sommes pas parfaits. Alors, cette imperfection, est-ce qu'elle nous attire la haine de Dieu ? Non. C'est par amour qu'il veut nous changer, c'est par amour qu'il veut nous transformer. Et il agit dans ce sens-là. La grande question et la grande difficulté pour nous, c'est de le croire. Quand on est face à ces épreuves discipline que Dieu envoie dans notre vie, c'est de croire que Dieu a un plan bienveillant pour nous. Et le mensonge du diable, c'est de nous faire croire que, ah voilà, parce que tout ça m'arrive, c'est que Dieu ne m'aime plus, c'est que Dieu a détourné les regards de moi, c'est que Dieu m'en veut, c'est que je dois, un moyen quelconque, il faut que je le trouve absolument, il faut que j'apaise de nouveau Dieu par mes efforts. Mais ce n'est pas cela. Nous sommes fils et filles, pas esclaves, ni enfants illégitimes. Au 1er siècle, dans la société romaine, les hommes, comme aujourd'hui encore, avaient des épouses officielles, ils étaient mariés, mais ils avaient aussi des aventures, ils avaient des maîtresses. Et donc ils avaient des enfants avec ces femmes-là. Et pour les fils légitimes, ils avaient une éducation, ils investissaient de l'argent. Ils faisaient tout pour qu'ils puissent bénéficier des meilleures écoles et des meilleurs enseignants. Ils voulaient leur donner une situation plus tard dans la vie. Et puis pour les fils ou les filles illégitimes, c'était juste ce qu'il fallait pour vivre, survivre, mais ils délaissaient complètement ses enfants. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu nous traite comme un père. Est-ce que vous avez remarqué l'illustration que l'auteur utilise ici ? Supporter la correction, verset 7. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? Et il fait donc référence à notre père terrestre. Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Et il continue encore au verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous donc pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et il fait un parallèle. Et c'est un parallèle qui n'est pas totalement symétrique. Il nous demande de regarder à notre Père terrestre. Notre Père terrestre nous corrigeait. Là aussi, on n'était pas très contents quand on a eu des punitions, quand on a été corrigé par notre Père terrestre. Mais pourtant, on respectait ce Père. Pourtant, on était capable de voir que derrière ces corrections, derrière cette discipline, derrière le cadre qu'il nous posait, il y avait de l'amour. C'était pour notre protection, c'était pour notre sécurité, c'était pour qu'on ne devienne pas des gens perdus, sans repère, qui font des mauvaises choses. Donc, il attire notre regard sur notre Père terrestre. Je ne sais pas lequel était votre Père terrestre. Peut-être c'est un peu difficile à écouter ce verset ou à comprendre cette illustration si ce n'était pas le cas pour vous que vous avez eu sur terre un Père qui vous a aimé de cette manière-là. Mais vous avez, j'espère, une vision de ce que ça peut être un Père terrestre moyen, disons, qui essaye tant bien que mal de faire les choses. Et c'est là aussi qu'il y a une grosse division entre nos pères terrestres et le Père céleste. Parce que nos pères terrestres nous ont corrigés selon ce qui leur semblait bon. Et des fois, ils se sont trompés. Et des fois, ils étaient à côté de la plaque. Et des fois, ils n'ont pas compris quel était le vrai intérêt pour leurs enfants. Et je parle en tant que papa. Je sais que moi aussi, je me trompe. Et moi aussi, je ne suis pas parfait. Il y a des choses qui, moi, m'apparaissent bonnes, mais en fait, c'est pas l'amour qui me motive. Peut-être c'est la honte, peut-être c'est d'autres mauvaises choses, l'orgueil, la tranquillité qui me motive. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait, lui, pour notre bien, pour que nous ayons part à sa sainteté. Est-ce que vous avez remarqué combien tous les objectifs que Dieu poursuit sont vraiment excellents ? Notre bien, notre sainteté. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fils ou fille de Dieu, tu désires cette sainteté. En fait, c'est pas quelque chose qui est pénible, c'est pas quelque chose qui te fait peur. Tu désires grandir dans cette sainteté, être de plus en plus à la ressemblance de ton Père céleste. Est-ce pas quelque chose qui est exaltant ? Il le faisait. Et il le fait, notre Père céleste, pour notre paix, pour que ça produise la paix en nous, pour que ça produise la justice. Quand Dieu vise la sainteté ici, peut-être ça vaut la peine de préciser ça, il n'est pas en train de viser la sainteté initiale, il n'est pas en train de nous corriger pour que petit à petit on s'améliore et qu'au bout du compte, vers la fin de notre vie, la balance soit suffisamment en train de pencher du côté des bonnes actions, qu'on soit suffisamment bon pour qu'il nous accepte pour l'éternité avec lui dans sa présence au paradis. Non, ça c'est Christ qui l'a fait une fois pour toutes. Et vous pouvez lire le début d'Hébreux qui nous parle en long et en large de l'assurance que nous avons dans ce grand prêtre, Jésus, qui a tout accompli pour nous. Notre sainteté, elle a été déclarée. Elle est acquise dans un sens, mais on veut grandir, on veut l'expérimenter dès maintenant, dans cette vie-ci, et jusque dans l'éternité. On veut vivre cette sainteté pour être en phase, justement, avec notre nouvelle identité. Le but de Dieu, donc, c'est notre véritable intérêt. C'est ça qui est difficile à croire. C'est ça qui, quand on est plongé dans les épreuves disciplines, les épreuves corrections, devient un peu brouillé à nos yeux. Parce que émotionnellement, ça remue tout un tas de choses. Parce que la douleur est là, la peine est là, la tristesse est là. Et on perd de vue la joie que ça doit produire au final. Et donc mon encouragement ce matin, c'est même quand vous êtes plongé dans ces épreuves, corrections de la part de Dieu, mais croyons que c'est pour notre véritable intérêt, notre vrai intérêt, que c'est vraiment bon pour nous. Et au lieu de nous rebeller, mais soumettons-nous à cette discipline de Dieu. Je voudrais conclure. Donc, on a vu dans ce passage la souveraineté de Dieu à l'œuvre. D'ailleurs, si vous avez remarqué, de nouveau, on a vu comment Dieu est souverain pour faire naître la foi, au verset 2. C'est lui qui est au commencement, celui qui nous donne cette foi. On avait vu que c'était par le moyen de la prédication de l'Évangile et que notre responsabilité à nous, c'est de répondre à cette proclamation. Et puis, on voit que c'est lui qui va la mener à la perfection. Donc, dans sa souveraineté, Dieu va faire que ça reste, que ça persévère, que ça demeure en nous, non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Donc, du bout, de A jusqu'à Z, du commencement jusqu'à la fin, Dieu est le Dieu souverain qui tient nos vies entre ses mains. Les moyens qu'il utilise vont inclure la discipline, en partie. Pas que ça, on a vu d'autres éléments les semaines précédentes. Mais parfois, ça va impliquer des épreuves discipline, des épreuves correction. Les premiers visages qu'on va voir, ce sera des hommes pécheurs, ce sera le visage du diable, de l'adversaire qui nous attaque. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur, parce que derrière, Dieu est maître et souverain. Et quand il permet ça, et quand il planifie ça, il est comme le chirurgien qui a prévu une opération pour enlever quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Il prévoit cette opération pour notre bien, pour notre paix, pour notre justice, pour notre sainteté. Si nous entrons dans ça, si nous comprenons ça, si nous mettons notre foi dans ça, alors la juste réponse de notre part, c'est de nous soumettre, c'est de faire confiance, et non pas de nous rebeller. Je voudrais lire quelques versets pour terminer. La suite du passage au verset 12. « Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. » Encore un bénéfice, n'est-ce pas? Il vaut mieux guérir que que les choses se démettent de plus en plus. « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Vous pouvez lire tout un tas d'exhortations alors qu'il nous encourage, puisque Dieu veut cette discipline pour nous. Ben notre réponse est de nous soumettre et de rentrer et de faire ce qui est bien. Alors courage, fortifiez-vous, fortifions-nous mes frères et sœurs et encourageons-nous les uns les autres dans les moments où Dieu nous discipline.